Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être, au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Alors au programme du jour, Mélanie, on va encore une fois aller de bienfait en bienfait. On va démarrer justement dans la douceur, puisqu'on va se poser cette question. Les parents aussi ont-ils besoin d'amour? Non, parce que c'est vrai qu'on se questionne rarement à ce sujet. Nos enfants nous aiment-ils vraiment dès la naissance? Comment leur apprendre à nous montrer leurs sentiments? On verra tout ça avec notre invité, le psychiatre et psychologue Alain Braconnier.
Bon, et puis que ce soit sur ce sujet de l'amour parent-enfant ou sur les autres dans l'émission, vous le savez, vous pouvez nous poser vos questions au 3921, le répondeur d'Europe 1, ou encore sur le compte Instagram de l'émission.
Ensuite, à 11h45, comme tous les jours, ce sera la partie tendance de l'émission avec nos chroniqueurs. Et ce matin, Édouard Dutour mettra des fleurs dans nos assiettes. Et oui, la mode est au végétal dans la gastronomie ces derniers temps. Et puis Elsa Lévy va nous faire voyager comme à son habitude. Elle nous emmène cette fois au Japon pour nous faire découvrir le kintsugi ou l'art de la résilience.
Et puis pour finir, Julia, à partir de midi, dans la séquence santé de ce magazine, on va vous aider à profiter encore plus sereinement de vos balades en forêt ou de vos randonnées. On fera le point sur la maladie de Lyme et les tics qui peuvent la transmettre. On va dédramatiser un peu sur ce sujet avec le professeur et infectiologue Éric Combe qui sera notre invité.
Europe 1.
Bien fait pour vous, c'est parti. Et Mélanie, ce matin, on se pose donc la question suivante. Les parents aussi ont-ils besoin d'amour?
Eh oui, Julia, ce qu'on sous-entend dans cette question, c'est est-ce que les parents, comme les enfants, en ont besoin de cet amour? Alors avant de rentrer dans le détail, lui, c'est clair, il a besoin d'amour. Et c'est d'ailleurs dans la rue, qu'il va en chercher de l'amour. Il part tous les jours à la rencontre des gens pour les questionner sur notre sujet du jour. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour Mélanie, bonjour
Julia.
Ça va,
vous sentez aimé, ça va?
Très aimé, je suis en pleine forme et effectivement, je pense que si je devais répondre oui, tout le monde a besoin d'amour. C'est d'ailleurs la question que j'ai posée et la réponse que j'ai eue. Petit florilège de réponses.
Je suppose que oui, parce que ma maman, elle m'en réclame tout le temps.
Pour moi, tout le monde a besoin d'amour. Les parents, les enfants, les grands-parents, tout le monde.
Eh ben ouais, parce que c'est pas parce qu'on est un papa, un homme, un vrai, qu'on n'a pas besoin d'un petit câlin de temps en temps.
Donc ça, c'est les adultes. C'est chaud. J'ai posé la question également aux enfants. Est-ce que leurs parents ont besoin d'amour selon eux?
Bah oui, hein. Ma mère, elle fait toujours des câlins. Quand je vais avoir 15 ans, « Oh, mon petit chéri d'amour !» Elle va me taper là, hein.
Mes parents, ils ont besoin d'amour parce que ils aiment bien les bisous, les câlins, que leurs enfants, ils leur font. Et ils aiment bien quand on dit des gentils mots comme « Je t'aime, je t'adore, tu es le meilleur, tu es la meilleure
». Est-ce que c'est pas trop mignon?
Oui, on dirait ma fille.
On dirait, voilà. Bah après, il y a des enfants moins mignons. J'ai posé la question aussi à un enfant. Ses parents étaient à côté?
Ah oui, beaucoup. Et même le chien, car on l'aime beaucoup. Et je préfère le chien que vous.
Oh, c'est dur ça.
Rien n'a été monté, il y avait les parents à côté. Et puis j'ai posé la question également à des adultes qui peuvent, sur ce sujet, être très très touchants.
Tous les parents ont besoin d'amour. Le plus gros problème, c'est que passé un certain âge, en fait, c'est difficile de dire « je t'aime » à ses parents. Et c'est dommage. Mais après, ça revient. Quand on s'aperçoit qu'ils vieillissent, on recommence à... Enfin, on trouve même dommage de ne pas leur avoir dit « je t'aime » plus souvent.
Oh bah vous allez nous faire pleurer ce matin, mais c'est pas possible.
J'ai failli vous faire pleurer, mais je vous rassure, il y a un truc qui va vous faire sourire. C'est ce dernier jeune homme, plutôt beau gosse, que j'ai croisé d'ailleurs dans la rue, qui connaît bien l'émission, et je lui ai demandé si justement les parents, les papas, les mamans avaient besoin d'amour.
Bah oui, je pense que les parents, ça a besoin d'amour. Hein. Moi, de mon expérience personnelle, les mères célibataires ont énormément besoin d'amour. Je suis là d'ailleurs pour en donner, mais Mélanie, Julia, si vous êtes disponibles et que vous avez des besoins d'amour, je suis là au 06 98 28...
Je comprenais pas pourquoi vous précisiez qu'il était beau gosse. Je me suis dit, mais il ne le fait jamais, ce genre de détails.
Mélanie, vous avez besoin d'amour?
Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis servie.
Moi aussi, j'ai tout ce qu'il faut.
Je suis très gâtée.
Si vous avez besoin, on dédipera le numéro, puis on vous le donnera, si chers auditeurs et auditrices d'Europe 1.
C'est vraiment très gentil à lui. Merci beaucoup, Clément Lanoux. On vous retrouvera bien sûr demain pour un autre sujet et d'autres témoignages qui nous font souvent sourire, parfois pleurer. On a failli verser notre petite larme avec Mélanie. En tout cas, c'est toujours très juste et c'est même toujours très juste, je viens de le dire.
Voilà.
suite, c'est au tour de notre invité du jour. Et c'est vous, Alain Braconnier. Vous êtes psychiatre, psychologue et l'auteur du livre « Les parents aussi ont besoin d'amour » aux éditions Odile Jacob. Bonjour à vous, bienvenue.
Bonjour.
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'amour que l'on porte à ses enfants, mais peu de l'inverse. Votre intérêt pour cette question, c'est parti de quel constat ?
C'est d'abord parti de mon expérience personnelle. Et c'est vrai que ma carrière m'a amené à rencontrer et écouter beaucoup d'enfants, d'adolescents et de parents, bien évidemment. Et que tout au long de cette carrière, j'ai pu voir différentes situations, mais qu'il y avait quelque chose qui était toujours présent. C'était ce désir d'être aimé, et de la part des enfants, bien évidemment. Et ça, je crois que notre époque actuelle l'a bien, je dirais, mis en avant. Mais en effet, beaucoup moins aussi les parents. Et que c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit ce livre et que j'ai voulu transmettre aux parents ce message-là.
Pourquoi c'est un sujet qui est négligé jusqu'alors ? C'est un peu tabou, on n'a pas le droit de demander, de se questionner sur l'amour que nos enfants nous portent ou même sur celui qu'on porte à ses propres parents, parce qu'on est tous l'enfant de quelqu'un, a priori. Hein.
Exactement. Oui, alors c'est un sujet, je dirais pas tabou, mais c'est un sujet qui, au-delà des apparences, montre bien qu'il y a ce désir d'être aimé. Mais que dans les apparences, d'ailleurs de la part des enfants aussi, hein, et de la part des parents, il y a quelque chose qui devient un peu gênant à certains moments. Alors gênant pourquoi ? Parce que de la part des enfants, c'est très bien dit dans les témoignages qu'on a entendus, quand ils grandissent, ils ne veulent plus exprimer comme ça, de la même façon, les câlins et les bisous.
Ah bah, la fameuse barrière devant l'école où laisse-moi à 100 mètres, à 200 mètres, avec l'âge, ça revient après.
Le petit garçon, enfin le garçon avait 15 ans, moi ça a commencé à 12 ans chez moi, mais voilà. C'est un peu tôt.
Ça commence plus ou moins tôt. Et de la part des parents, c'est vrai qu'il y a une certaine gêne à oser demander à ses enfants si, au fond, ils les aiment. Et que cette gêne est sans doute liée d'abord à la peur de la réponse. Je préfère le chien.
Ouais. Ça, celle-là, elle était dure. Hein.
Ou la peur aussi que comme il y a des moments de conflit, il y a des difficultés qui surgissent, il y a des oppositions, l'enfant grandit, s'affirme, et a besoin en effet de garder une certaine distance. Mais le fond est là.
Est-ce que l'amour parent-enfant est différent de l'amour enfant-parent ? Parce qu'en fait, c'est quand même le même lien.
Oui, c'est le même lien, mais oui et non. C'est-à-dire que c'est le même lien, mais en même temps, chacun a sa place, chacun a son rôle. C'est-à-dire que les parents ont besoin d'aimer leur enfant, et je pense personnellement que ça n'exclut pas tout à fait l'éducation générale, y compris l'éducation rationnelle, scolaire, etc. Mais que le cœur de tout ça, eh bien, c'est un échange incontestablement qui va être le support des autres.
Alors de ma propre expérience, si je regarde mes amis autour de moi, je sais que souvent j'ai des couples d'amis qui ont plusieurs enfants, qui ont un peu leur chouchou chez les enfants. Est-ce que inversement, les enfants ont un parent préféré ?
Alors ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. Vous savez, chaque enfant est unique, chaque parent est unique aussi. Ça dépend des enfants, ça dépend de l'âge. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que là. Les enfants ont le souci quand même, quand il y a des conflits entre les parents, ils ont ce souci de ne pas prendre parti. Mais au fond, les sentiments, c'est les sentiments. La passion amoureuse est une passion qui se situe dans d'autres domaines dans la vie. Et on voit bien qu'il y a là des différences selon chacun. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
Alain Braconnier, on va continuer avec vous sur ce sujet passionnant de l'amour parent-enfant. Parce que c'est vrai, les pères et les mères expriment en général facilement leur amour, les enfants beaucoup moins. Alors pourquoi un tel décalage ? Des conseils à venir sur Europe 1 pour parents en plein questionnement. Alors restez avec nous. Bien fait pour vous de retour très vite avec cette question. Les parents aussi ont-ils besoin d'amour ? Comment échanger d'ailleurs avec nos enfants sur cette question de nos sentiments réciproques ? Et comment faire nous aussi avec nos parents ? On vous dit tout sur Europe 1.
Renault, aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renault Occasion, nous agissons depuis 1959. Et oui, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renault Occasion en plus.
Et en ce moment, on peut tous profiter du bonus écologique de 1000 euros sur les Zoé d'occasion. Rendez-vous chez votre concessionnaire Renault. Renew, les occasions Renault. Nouveau pour vous.
Renault.
Voir conditions sur Renault.fr.
À tous ceux qui aiment les poires lorsqu'elles sont bleues, à ceux qui ne jurent que par des noix bien saignantes, et à ceux qui se régalent avec des araignées bien cuites. Pour ceux qui n'ont rien compris, et tous les amateurs de viande, Intermarché offre 5 euros en bon d'achat, des 20 euros d'achat au rayon boucherie-volaille traditionnel. Et c'est seulement pendant l'anniversaire Intermarché. Bon anniversaire Intermarché. Bisous. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 23 septembre, hors libre service, modalité magasin et drive participants sur intermarché.com.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être. Et ce matin, on se pose ensemble une question cruciale, mais un peu gênante, tabou. Les parents aussi ont-ils besoin d'amour? On s'intéresse à l'amour parent-enfant, bien sûr, pas à nos relations amoureuses. Alors pour évoquer ce sujet sensible, on a fait appel à vous, Alain Braconnier. Vous êtes psychiatre et psychologue, l'auteur du livre « Les parents aussi ont besoin d'amour » aux éditions Odile Jacob. Alors on va aller droit au but. Comment savoir si nos enfants nous aiment? Est-ce qu'il y a un test, un truc à faire? Pas assez facile.
Bien justement, ça dépend un petit peu des âges. Quand l'enfant est tout petit bébé, les parents savent, par les câlins, les bisous, le bonheur, la situation qui fait que tout ça se passe spontanément, naturellement. Et petit à petit, c'est vrai qu'on le sait de moins en moins au fur et à mesure que l'enfant grandit, et surtout quand il devient adolescent, parce qu'il y a les problèmes. Il y a les problèmes et que ces problèmes vont être des sources de conflits, de difficultés. Mon métier amène évidemment à voir plutôt cela, mais je trouve quand même qu'au fond, justement, au-delà des apparences, une fois de plus, il y a là quelque chose qu'il faut trouver. Et c'est un peu le but de ce livre, c'est-à-dire c'est l'occasion d'échanger entre les parents et les enfants pour savoir où on en est. Et que cette situation fait qu'on va découvrir qu'au fond, et nous, on le sait, parce que les adolescents, quand ils sont en conflit avec leurs parents, ils ont des critiques. Le père et la mère de mon copain est bien meilleur que vous, etc. Oh, oui. Et on sait qu'au fond, quand on leur pose la question, et moi je le pose parfois quand les parents sont là avec l'adolescent, je dis, mais au fond, est-ce que tu les aimes quand même?
Et alors, là, ça répond quoi en général?
Oui.
Ouais, ah, il nous aime quand même. ça fait plaisir. À la maman d'un adolescent de 15 ans que je suis. Remarquez, quand même, il y a des petits qui détestent les câlins, les bisous. Cela, ça veut dire qu'ils n'aiment pas leurs parents?
Non, non, non. C'est vrai que là, il y a généralement plusieurs raisons. Ça existe et c'est quand même moins fréquent que l'inverse. Mais c'est vrai que ça existe. Alors, je pense qu'il y a une question de tempérament. Il y a des bébés où on est plus ou moins expansif, affectif dans nos échanges, ou plutôt timide, réservé. Ça, c'est une explication.
Ouais, c'est de la personnalité. Quoi.
Personnalité. Et puis, il y a une autre explication qui est intéressante aussi à connaître, parce que ça peut rendre vraiment service, c'est que il y a des petits, il y a des enfants qui en veulent à leurs parents.
Ah oui.
Pour des raisons X, Y, Z, que leur représentation. Et puis, il faut dire aussi que de temps en temps, les parents ne sont pas toujours disposés à montrer, au fond, à leur enfant leur disponibilité. Et que là, l'enfant, sa manière de réagir, comme il ne sait pas encore bien exprimer les choses...
C'est la rétention de câlin.
Spontanément, il sait que ça va embêter son père et sa mère.
Ah d'accord, donc parfois, il faut aller voir ce qui se cache derrière, effectivement.
Oui, et la meilleure preuve, c'est que quand c'est avec un autre adulte, il redevient câlineux. Ouais.
Câlinou, on peut dire aussi.
et tendre.
Et à l'inverse, moi je connais des adultes aussi encore très très démonstratifs avec leurs parents âgés pour le coup. Ça dit quoi d'eux? Ils aiment leurs parents plus que nous, Julia et moi? Je ne sais pas si vous faites des câlins à vos parents encore aujourd'hui.
Non, j'ose plus trop.
Bah, je vais, en souriant, je vais vous dire ça. Ça montre qu'il reste encore des enfants.
Ouais.
C'est-à-dire que s'ils sont encore très très affectifs avec leurs parents...
Mais leurs parents ont l'air d'apprécier quand même les câlins, même quand ils ont leur enfant de 40 ans qui les prend dans les bras, ça fait du bien.
Qui n'est pas heureux de recevoir de l'amour? Mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte les âges différents. Mais je crois que c'est important pour les grands-parents de recevoir un petit peu de temps en temps des signes qui rappellent le passé. Et au fond, c'est ce que je conseille aussi là, dans ce livre, c'est de se souvenir des moments heureux, de regarder les albums de photos, des choses concrètes comme ça.
Si on n'arrive pas à dire je t'aime à son parent qui est un peu âgé, le prendre déjà juste dans ses bras, c'est une manière de dire je t'aime.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
Un câlinou, comme
un
on dit. Est-ce qu'on a le droit de demander à son enfant s'il nous aime? Est-ce que tu m'aimes mon chéri? En tant que parent, est-ce qu'on a le droit de faire ça?
Oui, alors ça c'est, je crois, quelque chose justement qui est un peu un tabou pour les parents, parce qu'il d'abord il a peur de la réponse.
Et puis s'il répond le chien, encore une fois, c'est compliqué, voilà. Le chien plus.
Et en plus, il a quand même une certaine réserve vis-à-vis de ça. On a été dans une culture depuis un certain nombre de décennies où il fallait absolument aimer les enfants, faut aimer les enfants. C'est vrai, bien sûr, qu'avant, peut-être, il y avait trop de distance. Mais aujourd'hui, on a oublié aussi que c'est une réciprocité, c'est un échange. C'est gagnant-gagnant, au fond, pour dire les choses de façon contemporaine. Et que cet échange, eh bien, ça fait du bien à tout le monde.
Mm-hmm. Donc on a le droit.
Là, c'est vrai que quand vous posez cette question comme ça, Julien, on a l'impression qu'on parle d'enfants assez petits. Mais est-ce que, je ne sais pas, quand on a 70 ans, on a le droit de poser la question à son enfant, est-ce que tu m'aimes toujours? Enfin, je ne sais pas comment on la pose, d'ailleurs.
Oui, on la pose peut-être comme ça ou un peu différemment, mais je crois que oui. Je crois que oui, quand il y a des conflits.
Ça permet d'ouvrir au moins le sujet et de parler enfin de nos sentiments.
Ça permet d'échanger. Ce que je crois aussi, c'est qu'on a toujours une certaine appréhension à exprimer ce qui ne va pas. Parce que vis-à-vis de ses enfants ou vis-à-vis de ses propres parents. Et que, quand on grandit, et que cette appréhension, bah, faut essayer de montrer que quand on exprime soi-même ses sentiments en tant que parent, bah, l'enfant va se sentir plus libre pour aussi les exprimer.
Oui, c'est une porte ouverte vers leurs émotions. Mais quand même, certains parents ont du mal à parler de tout ça. Est-ce qu'il y a des mots à utiliser pour parler des sentiments qui pourraient être partagés avec nos enfants?
Je crois qu'il n'y a pas des mots précis, mais il y a de l'authenticité. Mm-hmm. Ça, c'est quand même très important. C'est les enfants, ce qui les caractérise le plus, ils ont leur secret, hein. Mais les enfants, ce qui les caractérise le plus, c'est l'authenticité. Et ça, il faut rester, je crois, dans une authenticité toute sa vie. C'est ça qui passe. Mm-hmm. Au fond, c'est ça qui passe. Vous savez que la communication, c'est important. Et l'authenticité, au fond, ben, on trouve les mots qui, à chacun, conviennent pour dire ce qu'il ressent.
Vous l'avez dit, c'est pas évident de demander de l'amour à ses enfants. Certains vont hésiter justement à le faire parce qu'ils ont l'impression aussi que ça les met dans une position de fragilité vis-à-vis de leurs enfants. Et or, on a toujours envie d'être la preuve qu'on est le socle, on est le baobab de la famille. C'est ça, hein, ça nous rend fragile aussi de poser cette question-là ouvertement à nos enfants.
Oui, ça rend fragile, ou en tout cas, ça amène à penser qu'on ne joue plus le rôle qu'on devrait avoir en tant qu'en effet parent, avec l'autorité entre guillemets que l'on doit exercer. Mais je crois que les sentiments, vous savez, ça va au-delà de ça. Hein. Les sentiments, ça va au-delà de simplement des positions, qui sont des positions tout à fait à respecter. Moi, je suis tout à fait convaincu qu'un parent doit rester un parent, un enfant, mais qu'il faut mettre des limites en tant que parent. Mais les sentiments, ça, on peut vraiment les utiliser de façon un petit peu plus spontanée.
Ouais. Alors, à l'inverse, il y a des mamans et des papas poules hyper protecteurs de leurs enfants. Est-ce qu'on peut se dire que ceux-là, ils demandent trop d'amour à leurs enfants et qu'il faut faut lâcher la grappe, en fait?
Oui, je crois, parce que le problème d'un enfant, c'est de grandir. Ouais. Et pour grandir, il faut qu'il se sente aussi un peu en opposition avec les autres. Et j'avais une de mes patientes il y a longtemps qui m'avait dit une phrase dont je me souviens toujours. Mon père, c'est un mur sans prise. Alors elle dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et ben, elle disait très bien les choses. Elle disait au fond que c'était un mur, mais elle pouvait pas s'accrocher. Et donc c'est ça grandir au fond. Et que quand on est trop en tant que parent proche de son enfant, on n'exerce pas cette capacité à la fois de laisser l'autre grandir pour un peu se confronter et à la fois quand même s'accrocher et être avec.
Ouais. Il faut des aspérités aussi alors.
Il faut des aspérités, voilà.
Est-ce que certains parents peuvent avoir peur aussi de ne pas avoir l'amour de leurs enfants parce qu'ils sont trop stricts, trop sévères, parce qu'ils osent la voix, parce qu'ils les punissent parfois? Est-ce que c'est possible, si on est un peu trop dans l'éducation comme ça, rigide, qu'il y ait moins d'amour du côté de nos enfants?
Oui, la difficulté pour les parents, c'est de punir et d'aimer. Au fond, c'est pas si facile que ça, et que c'est un équilibre à trouver. Bon, à un moment, on va être plutôt d'un côté, à un moment, plutôt de l'autre.
Bon, d'ailleurs, ça m'est arrivé de punir ma petite fille de 4 ans qui m'a répondu « Je t'aime pas, toi, de toute façon, t'es la plus méchante des mamans !»
Mais on peut peut-être lui répondre « C'est parce que je t'aime que je te punis ou... ?»
On peut lui répondre « Tu sais, si je me comporte de telle façon que je te protège, au fond, quand on punit, c'est pour protéger, c'est pas pour exercer une violence, ou alors là, on est vraiment en difficulté. C'est pour protéger, il faut lui expliquer, c'est pour te protéger, et puis le lendemain, elle n'y pense plus. Hein.
Même pas une heure après, c'est terminé en général.
On a quelques secondes pour parler des familles recomposées. Est-ce que les beaux-parents que nous sommes ont besoin d'amour de leurs beaux-enfants ?
Alors, je crois que c'est une situation en effet qui est différente qu'avec les parents directs, mais je crois qu'en effet, les beaux-parents, c'est pas un rôle facile parfois d'être beaux-parents. Et que cette situation doit aussi passer par des sentiments, et que ces sentiments, faut en parler. Une fois de plus, faut en parler, faut oser en parler, et les uns et les autres, et que c'est comme ça que les choses s'éclairent.
Alors Alain Braconnier, on vous retrouve dans quelques minutes avec encore d'autres conseils pour sentir davantage que nos enfants nous aiment. On aimerait bien qu'ils continuent de nous le dire, même en grandissant. Alors comment faire concrètement, sans être trop intrusif non plus ? On va tout vous expliquer sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
France Gall avait besoin d'amour, nous aussi.
Comme nous,
ah, tout le monde a besoin d'amour. Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On se pose ce matin cette question. Les parents aussi ont-ils besoin d'amour ? Et on y répond avec notre invité, Alain Braconnier, psychiatre et psychologue. Alors la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi trop de pression pour être un parent parfait ? Et c'est peut-être que, à cause de ça qu'on ne veut pas se montrer faillible et demander de l'amour à nos enfants.
Oui, en effet, j'aborde aussi ce sujet parce que je crois qu'il faut savoir être un parent imparfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perfection dans la situation de parentalité, comme on dit, et qu'être un parent imparfait, c'est accepter aussi que on a des difficultés, des failles, des moments difficiles liés à la vie, liés au contexte de social ou de société, et que tout ça est à vivre au quotidien.
Oui, mais est-ce qu'on peut communiquer sur ces difficultés auprès de ses enfants ?
Oui, alors avec une réserve, c'est-à-dire qu'il ne faut pas angoisser trop les enfants.
Voilà.
C'est-à-dire, mais il faut quand même... Moi, j'ai été frappé, une fois de plus, tout au long de ma carrière, que le nombre d'enfants et d'adolescents qui ne savaient pas très bien ce que faisaient leurs parents.
Ah oui.
En termes professionnels. Ouais. C'est amusant quand même. Donc, il faut savoir communiquer avec ses enfants, mais en effet, il faut aussi faire attention à ne pas trop les angoisser, parce que l'enfant est un enfant, même l'adolescent, il est encore assez fragile, je vais dire, et que il ne faut pas trop les angoisser sur les critiques qu'on leur fait ou les contraintes qu'on leur apporte, tout en mettant une fois de plus des limites. Mais nous sommes tous plus ou moins anxieux, mais que cette situation d'enfant et d'adolescent fait qu'il faut aussi savoir les protéger de l'angoisse.
Bien Alain Braconnier, vous nous avez dit donc on a le droit de poser cette question à nos enfants, quel que soit leur âge finalement. Est-ce que tu m'aimes mon chéri ou ma chérie ? Est-ce que si justement on ne le fait pas, on ne le fait jamais de poser cette question de cette façon-là ou avec d'autres mots, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement si on ne fait pas cette éducation à l'amour ? Que ben, peut-être il y a des répercussions dans leur propre vie amoureuse, pardon, plus tard, dans leur rapport aux autres.
Ah oui, ça je crois volontiers. Vous savez que mon métier m'amène à prendre en compte que tout un chacun, il a une histoire personnelle, et que cette histoire personnelle joue un rôle dans le choix d'ailleurs de ses partenaires, et aussi dans la manière d'être, ce qu'on appelle nous l'identification. C'est-à-dire qu'on a toujours, au fond, en nous, quelque chose qui vient de nos parents, et que ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de prendre en compte. Parfois, c'est aussi des blocages, c'est aussi des contraintes, et qu'au fond, nos métiers amènent à essayer de lever ces blocages.
C'est peut-être aussi pour ça que parfois, c'est difficile pour certains parents aussi de recevoir l'amour de leurs enfants. Il y a des parents qui sont chanceux, pourtant, mais qui ont du mal à recevoir cet amour. Ça leur vient de leurs parents ?
Oui, alors, ils ont du mal à recevoir cet amour parce qu'ils en demandent peut-être trop, comme vous le disiez. Ils veulent être des parents parfaits, donc ils devraient avoir un enfant parfait. Sans doute que ça vient peut-être aussi de leurs parents dans lesquels ils ont rencontré, au fond, il y a eu un lien, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, un lien qui ne s'est pas passé comme ça aurait pu mieux se passer.
Bien sûr. Si je me mets à la place d'enfant, pour le coup, d'un enfant, je suis moi-même une enfant, hein, mais d'enfants qui ont eu malheureusement une enfance très difficile et des parents loin d'être parfaits, voire même maltraitants. Est-ce que c'est obligé d'aimer ses parents ou on a le droit aussi de les détester ou est-ce qu'on les aimera toujours ?
Ah, non seulement on a le droit, mais de temps en temps on les déteste. Oui. C'est-à-dire que c'est plus qu'un droit, c'est une réaction qui fait que son enfant vous en fait voir des vertes et des pas mûres, comme on dit, et que là on peut avoir des mouvements, en effet, où on les déteste. Et inversement, les enfants peuvent par moments détester leurs parents. Mais c'est ça qu'il faut savoir dépasser, c'est pour ça qu'il faut savoir aussi voir que tous les sentiments... Le secret de la vie, c'est qu'on a une certaine ambivalence dans les relations humaines. C'est-à-dire on aime et on n'aime pas, selon les moments, plus ou moins, etc. Et que c'est cette ambivalence qu'il faut savoir traiter au fil du temps.
Mais on s'est parlé tout à l'heure, en off, comme on dit, vous disiez que même les enfants maltraités même, aimeront, il y aura toujours un sentiment envers le parent.
Oui, mais ils ne le disent pas. C'est-à-dire que nous, on le sait parce qu'ils peuvent nous le dire. Et puis, on le sait aussi, il y a des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil par le juge. Et quand on demande à ces enfants, et tes parents, il ne faut pas que ce soit la famille d'accueil qui le demande. Mais quand nous, on leur demande, ils disent, oui, mais mes parents, ils me manquent encore.
Oh, c'est fou, hein. Même dans les situations les plus douloureuses. Alors il y a une période sensible, bien souvent dans cette relation parent-enfant, et j'aimerais en parler parce que ça me concerne.
C'est bizarre,
C'est l'adolescence. Est-ce que c'est obligatoire à ce moment-là qu'on se sente moins aimé de nos enfants?
Oui, c'est normal parce que d'abord, ils en aiment d'autres.
Oui.
Et ils
les copains, les copines, effectivement.
Plus que nous, on a l'impression parfois.
Ils l'expriment et ils l'affirment. Et qu'en même temps, c'est pour eux une manière de devenir des adultes et de s'autonomiser. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a quand même par moments, sans doute en tant que parent, sûrement même en tant que parent, le sentiment que... moi, j'ai écrit un chapitre sur justement les difficultés dans le développement et comment les dépasser. Eh bien, une des difficultés, c'est celle-là. C'est-à-dire de se sentir parfois un peu mis à l'écart, seul, les repas, ils ne viennent plus à table, ils ne vous parlent plus, etc. Et que là, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment plus. Ils disent même parfois qu'ils aiment mieux le parent de leur copain ou de leur copine.
Bah oui, qu'ils sont vachement mieux que nous. Hein.
Et qu'ils sont, voilà,
ça,
exactement.
C'est dur hein, quand même à accepter. Hein.
C'est dur à accepter. Mais quand on sait ce qui, au fond, est leur sentiment et leur cœur, je crois qu'il faut savoir justement garder ça à l'esprit, passer le cap un peu difficile, passer la crise. Et à ce moment-là, il y a aussi des choses concrètes qu'il faut savoir faire. C'est, au fond, mais tu sembles pas heureux avec moi, mais tu trouves pas qu'on a eu des moments heureux dans la vie quand même? Tu
te souviens pas de tel ou tel ou tel?
Voilà. Et ça, c'est une très très bonne chose.
Et on peut ressortir les albums photos à ce moment-là.
Et on peut ressortir les albums photos.
Ça sent vécu, Julien. Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression, justement, là on parle des difficultés en ce moment, mais quand c'est vrai que nos enfants sont parfois ingrats, tout simplement, c'est très décourageant. On a fait tout ça pour eux, et puis on a l'impression vraiment, et puis même ils nous le montrent, ils nous aiment pas plus que ça. Comment ça se gère? S'il est ingrat, c'est vraiment qu'il ne nous aime pas?
Non. S'il est ingrat, c'est qu'il est anxieux d'abord, c'est qu'il n'est pas content de quelque chose, ou de plusieurs choses, et que cette ingratitude est une ingratitude qui fait qu'en effet, en tant que parent, on trouve qu'ils sont en dette avec nous, puisque nous, on a fait tout ce qu'on a pu, ou le mieux possible qu'on a pu. Mais il ne faut pas penser en termes de dette. Il faut penser en termes de « ils sont ingrats », on essaie de comprendre pourquoi ils sont ingrats. À l'adolescence, il y a un passage...
Ouais. Même après, hein, ça peut
même
encore...
Après, où ils sont plutôt ingrats. Mais il faut savoir dépasser tout ça, parce qu'on l'a tous été.
On ne le dit pas à son enfant, tu es qu'un ingrat, tout ce que j'ai fait pour toi. Il y en a qui utilisent ça presque comme façon d'éduquer.
On peut le dire.
Ça peut être culpabilisant pour les enfants.
Mais on peut le dire en y ajoutant quelque chose. Tu vois, ça me fait de la peine.
Ah oui, d'accord.
Et ça change tout.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on peut dire quelque chose comme ça parce qu'on le sent, on a envie de le dire. Mais si on reste dans l'idée d'une dette, ça, je crois qu'on peut dépasser ça et dire, mais tu vois, ça me fait de la peine au fond. Tu sens que ça me fait de la peine. Et là, les choses changent.
Ouais. Alors, on va moins le braquer, effectivement, je pense.
On en parlait en début d'émission avec Clément Lanoux qui est allé à la rencontre d'enfants et de parents. Mais c'est vrai que parfois, nous, en tant que parents, on a le sentiment que notre enfant préfère son père ou sa mère. Et puis, encore plus quand les parents sont divorcés, c'est une question qui vraiment se pose. On n'a pas le droit de poser la question « tu préfères papa ou maman ?» C'est affreux, ça, non?
Je crois qu'il ne faut pas la poser.
Oui.
Je crois qu'il faut, la vivre. Bon, c'est vrai que c'est des situations qu'on rencontre tout à fait. Et que ces situations font que ça fait de la peine quand on n'est pas ce, quand on n'est pas l'élu, on va dire, mais que cette situation est une situation qui fait que les rôles se répartissent au fond, et que c'est dans la complémentarité des rôles. Ce que n'aime pas l'enfant, c'est les conflits entre les parents. Mmh. Ça, vraiment, il n'aime pas ça. Et que je crois, s'il y a un conseil à donner simple, et que je donne d'ailleurs, c'est que essayez, quand vous êtes en conflit avec votre conjoint, essayez de faire en sorte que ça soit une question d'adulte et pas une question d'enfant.
Bon, parlons un petit peu des grands-parents pour terminer dans tout ça. Ils ont besoin d'amour aussi. J'ai l'impression que c'est plus simple pour les enfants parfois d'être démonstratif avec papy et mamie. Comment on explique ça ?
Ben parce que être grand-parent, c'est un rôle plus facile. Dans la mesure où on n'a pas tout à assumer dans les difficultés au quotidien.
Que les côtés cool, hein, parfois.
Oui. Et c'est très intéressant de voir combien des personnes, quand ils expliquent le choix de carrière qu'ils ont fait, c'était mon grand-père, c'était ma grand-mère, etc. Et,
oui.
Et c'est amusant de voir combien les grands-parents comptent quelque part chez l'enfant, et que les grands-parents doivent aussi aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit peut-être un petit peu plus difficilement, doivent aussi rester des grands-parents pour leurs petits-enfants.
Ah oui, merci. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Alain Braconnier d'être venu en studio chez nous pour décortiquer en douceur cette relation parfois compliquée parents-enfants. Alors pour ceux ou celles qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre excellent livre « Les parents aussi ont besoin d'amour » aux éditions Odile Jacob.
Oui, merci beaucoup docteur. Alors
merci
Mélanie,
beaucoup.
Il est temps de basculer vers notre séquence tendance.
Oui.
C'est dans quelques minutes. Édouard Dutour et Elsa Lévy vont nous rejoindre. On va découvrir une tendance japonaise, le kintsugi ou l'art de la résilience. Et puis c'est bientôt l'heure de passer à table, et je ne vous dis qu'une chose, elle sera végétale sur Europe
1. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à 12h30. C'est votre magazine bien-être dans lequel on vous fait aussi découvrir nos meilleurs bons plans, ces tendances d'ici ou d'ailleurs que nos chroniqueurs vont pêcher pour nous.
Et oui Julia, alors déjà elle a été pêchée, sa tendance assez loin pour le coup au Japon si je ne me trompe pas. Elsa Lévy, qu'est-ce que vous allez nous présenter ?
Oui, je vais vous parler du kintsugi. C'est un art japonais mais c'est aussi de l'art thérapie.
J'ai rien compris. J'ai hâte.
Vous
j'ai
inquiétez
hâte.
Pas, on aura les
j'ai hâte.
Merci Elsa. On revient avec vous très vite. En attendant, je me tourne vers vous, Édouard Dutour. Bonjour.
Bonjour les filles. Bonjour
à tous. Vous êtes journaliste pour le magazine Elle, et donc vous êtes avec nous et on va passer à table.
Mais tout à fait, parce que c'est vrai qu'on approche du déjeuner. Enfin moi, si je suis un peu comme les enfants,
46,
j'ai déjà très
bon,
faim.
Là.
Ou comme les matinaux d'Europe 1, vous savez qu'on la dalle à partir de 7h du matin, qui généralement prennent 10 kilos. Dans l'année. En tout cas, voilà, on va parler de tendances culinaires et ce qui est le très à la mode cette année, ce sera la table végétale.
Alors, la table végétale, mais de quoi s'agit-il,
Edouard ? Alors, c'est pas votre vieille table en bambou, là, que vous ressortez.
C'est ça, je pensais.
Quoique c'est très à la mode aussi, ouais. On en reparlera peut-être un jour en parlant de déco, mais en fait, la table végétale, c'est essayer de cuisiner et de se nourrir en évitant au maximum les aliments d'origine animale. Alors, vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil.
C'est les véganes,
ouais,
les
végis. Oui, c'est les véganes, c'est les végétariens, sauf que c'est un cran au-dessus, en fait. Pour faire brancher, il faut dire mettre de la naturalité dans l'assiette.
Ah.
Alors évidemment, on mange des carottes, on mange des légumes oubliés. Bon, moi, généralement, je sais pourquoi ils sont oubliés.
Parce que non,
c'est pas génial. Mais en fait, on peut faire mieux que ça. On rajoute des fleurs, des graines, des pétales, de l'herbe. Bref, une alimentation de lapin. Pour certains, mais pour d'autres, c'est plus intéressant que ça. Ça permet d'avoir un excellent bilan carbone et puis un excellent bilan cholestérol aussi.
Alors, il paraît que les grands chefs ils s'y mettent à ça.
Eh bien oui, figurez-vous que d'ailleurs, ça fera plaisir à notre ami Stéphane Bern, qui lui peut-être mange que des fleurs de lys, comme on le sait. Mais le meilleur restaurant végétal au monde serait luxembourgeois, serait au Luxembourg,
ah,
s'appelle
oui.
La Distillerie, qui a reçu un maximum de radis. Je n'invente
quoi,
rien, les radis, c'est l'équivalent des étoiles pour les tables
végétales.
Végétale. Voilà, alors là, ils ont eu 5 radis, je crois, à la distillerie.
C'est bien, 5 radis, je crois.
En gros, ce qui se passe, c'est que le chef, il fait un petit tour dans la forêt du Grand-Duché, et puis il vous propose un menu à 120 euros à base de légumes, de racines et de plantes. Alors, le plat signature, c'est le pain Douglas avec pommes et céleri. Bon
et
appétit.
Ça vaut 800 euros juste le plat.
En France aussi, on n'est pas en reste, hein, parce que le grand Manitou Alain Ducasse a également ouvert sa table autour de la naturalité dans le 10e arrondissement de Paris. C'est un réfectoire qui s'appelle Sapide et propose une cuisine composée à 95% de légumes, de céréales et avec là aussi un faible impact environnemental. Bon, et puis je peux vous donner des petits exemples concrets.
Ah bah oui, dites-nous, vous plaît, qu'est-ce qu'on a exactement okay. qu'est-ce qu'on
a dans du casse. Bon, par exemple, les plats, cette semaine, c'est quinoa rafraîchi, légumes d'été, poivrons pilés au paprika. Mmh. Ou alors une aubergine rôtie, moutabale, noix et basilic. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose.
Je
ne
sais pas ce que c'est, mais... Non, mais
ça... bah, vous oubliez le steak frites.
Bon, d'accord. Gros, hein. En tout cas, ça a l'air léger, tout
et
ça.
Et puis un autre grand toquet, Pierre Hermé, qu'on embrasse, qu'on adore, qui lui aussi, évidemment, ne loupe aucune tendance. Il avait déjà fait des desserts végétaux. Et là, il a essayé de faire le macaron sans origine animale, donc sans beurre, sans graisse. Il s'appelle Rose des Sables. C'est une subtile alliance d'amandes grillées, de chocolat, au lait d'amande. C'est très réussi. Il semblerait que ce soit la pâtisserie du futur.
Ah oui, certainement. Édouard, il paraît même que le végétal arrive sur la table jusqu'à l'Élysée.
Eh bien, oui, parce que quand Brigitte Macron est arrivée au château, comme on dit, elle a demandé à Guillaume Gomez, vous savez, Guillaume Gomez, c'est ce garçon extraordinaire qui a officié, je crois, presque 25 ans dans les 500 mètres carrés de cuisine de l'Élysée. Mmh. Maintenant, il a quitté l'Élysée, mais à l'époque, elle lui avait demandé de manger, non pas 5, comme le gouvernement le demande, mais 10 fruits et légumes par jour. Donc ça a un petit peu changé la tendance culinaire de l'Élysée. Et d'ailleurs, ce garçon très, très connu, Guillaume Gomez, ce chef...
Très talentueux, hein, mais très il s'appelle Gomez en même temps.
Voilà.
C'est pour ça que votre frère...
Eh bien, son prochain livre sera centré aussi sur la cuisine végétale. Donc c'est vraiment le truc du moment.
Alors chez nous, comment on peut faire pour faire du végétal?
Bah, 3 petits conseils si vous voulez passer à la tendance et puis évidemment améliorer votre bilan carbone et cholestérol. C'est premièrement privilégier les céréales, les légumes et le poisson de pêche durable. Ouais. Attention, hein, pas un vieux poisson congelé qui arrive du bout du monde.
Pas un vieux poisson non plus, oui, c'est clair.
Privilégier le local et les produits de saison, ça on le sait. Puis s'intéresser aux plantes comestibles, tout ce qui est fleurs, herbes, branches. On peut faire plein de choses avec une branche de pin, comme au Luxembourg. Voilà. Et moi, j'ai coutume de dire maintenant que le pétale, eh ben, c'est le nouveau saucisson. Voilà.
On a le droit d'encore aimer le saucisson quand même, hein. Mais si on le couvre de pétales de rose, ça passe peut-être
si vous
mieux
tendance,
sur la planche.
C'est pétale cette année.
Pétale. Merci beaucoup, Édouard, pour cet éclairage qui nous a bien mis en appétit, c'est vrai. Mais restez encore un peu avec nous parce qu'on va se tourner à présent vers Elsa Lévy, vers un pays où on mange bien aussi, mais c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Vous allez nous parler du kintsugi. C'est quoi ça?
Ouais, je vais vous parler de cet art japonais qui se popularise car c'est plus qu'un art, c'est de l'art-thérapie. Grâce au kintsugi, vous allez aimer vos blessures, vos cassures, vos cicatrices et même vos pires fêlures. Vous avez déjà sûrement aperçu ces vases ou ces bols qui ont été cassés, mais dont les morceaux sont recollés de façon à rendre visibles les fissures. Les jointures ont une apparence dorée. Eh bien, c'est ça le kintsugi. Et ce n'est pas du tout des objets de décoration, ni une technique tape à l'œil de radin pour rafistoler un objet. Non, le kintsugi, c'est un chemin de guérison.
Mais c'est né comment, le kintsugi?
Alors, on fait un petit rewind et on va au Japon. On est au 15e siècle et la légende raconte qu'un grand chef des armées, un jour, casse un bol en porcelaine fabriqué en Chine et qu'il chérissait plus que tout. Il décide alors de renvoyer le bol en Chine pour le faire réparer. Mais lorsque le bol revient du SAV, il ne ressemble plus à rien et surtout, il n'est même plus étanche. Le général est vraiment déçu. Il demande alors aux artisans japonais de trouver une solution à ce problème esthétique et fonctionnelle. Et c'est ainsi qu'est né l'art du kintsugi. Kin veut dire or en japonais et tsugi signifie jointure, des jointures à l'or. Cette technique qui consiste à recouvrir les fissures d'or pour les sublimer.
Bon, et Elsa, c'est quoi le principe alors thérapeutique derrière ces rafistolages?
Eh bien, derrière ces restaurations se cache une philosophie, c'est l'art de se réparer. Nous, en Occident, si on casse un objet, hein, on aura plutôt tendance à vouloir le recoller.
Moi, je le
avec,
jette à la poubelle.
Voilà, c'est poubelle bien, ou colle transparente extra forte qui sèche en trois minutes, histoire qu'on n'y voit que du feu, comme si l'objet était flambant neuf. Alors que dans cet art ancestral japonais, on préfère valoriser les cassures en intégrant l'histoire de l'objet. Si on le transpose à nous-mêmes, c'est l'idée qu'on accepte les épreuves de la vie qui nous ont abîmés, brisés, et qu'on en fait quelque chose de plus beau. Et c'est ce qu'explique Myriam Greff, qui est restauratrice d'art. C'est même une référence en matière de kintsugi en France.
On fait souvent le lien entre l'art du kintsugi et la résilience humaine, tout simplement parce qu'on trouve une cassure qui a lieu en quelques secondes, un travail long et souvent sale. Et on est aussi traversé par des moments de doute et au final, la sublimation de l'objet n'arrive qu'à la fin du parcours.
Voilà, donc c'est à travers l'objet, c'est soi-même que l'on répare et c'est là que cet art devient thérapeutique.
Mais c'est aussi long qu'une thérapie ?
Alors justement, Myriam Greff explique que le processus de restauration, lorsqu'il est bien fait, peut être aussi long que celui de la cicatrisation d'une blessure. Et comme dans une thérapie plus classique, hein, il y a des étapes plus ou moins jolies et agréables, Myriam insiste sur l'idée que recoller les morceaux n'est pas qu'une démarche purement esthétique.
Avec le kintsugi, on redonne du sens aux objets, car en utilisant des produits haut de gamme comme la laque du Japon et l'or en poudre, on peut réutiliser les objets dans leur usage d'origine. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cet art traditionnel.
Voilà, car si l'objet perd sa fonctionnalité, alors la philosophie du kintsugi se perd aussi. D'ailleurs, la résine utilisée permet aux objets restaurés d'être souvent plus solides qu'avant. On fait donc de nos blessures une force plutôt que l'inverse, avec l'idée que la beauté va naître de l'imperfection. Au point où vous pourriez finir par avoir envie de casser tous vos objets. Hein. Mais attention, ce serait contre-productif. Pour vraiment vous faire une idée, je vous invite à jeter un œil aux œuvres de Myriam Greff sur son site kintsugi.fr et sur son compte Instagram. On peut également observer toutes les étapes de restauration. Et si jamais vous êtes sur Paris ou à Monaco cet automne, vous pourrez aller voir ses créations en vrai car elle y expose.
Bon, alors Edouard, il n'en peut plus, je le vois, il trépigne à côté de vous. Il veut savoir absolument, Edouard, où ça se pratique ou comment on fait pour faire évidemment des kintsugi.
Eh bien, on peut en faire un peu partout parce qu'il y a de plus en plus d'ateliers qui proposent des stages et des formations et c'est ouvert à tous hein, puisqu'on ne se retrouve jamais à faire du kintsugi par hasard. Mais attention, choisissez bien un atelier soucieux du temps long. Si on vous parle de réparer un objet en une heure, fuyez, ce n'est pas du kintsugi. Avec le kintsugi, le vrai, on prend le temps d'accepter une cassure et plutôt que de voler en éclats avec elle, on va chercher à la transformer. On devient les alchimistes de nos vies, on transforme le moche en beau, les écueils en force. Vous risquez même de regarder d'un tout autre œil les coups bas qui traversent votre existence parce qu'une question se pose, et si c'était finalement en apprenant à aimer l'imperfection qu'on touchait du doigt la perfection.
Mais c'est très beau, c'est un joli conte que ouais, vous avez raconté.
Kintsugi, je vous fais manger des fleurs.
Voilà. C'est ça, c'est intéressant, non, Edouard ? Vous avez des trucs à réparer ? Je ne sais pas, une voiture ? On a tous des choses
à réparer. Évidemment.
Et en tout cas, si le docteur Oren Marco, alias Dr Beauty, était avec nous, il parlerait également des réparations sur le corps et de la résilience.
Mais ça rejoint le sujet de l'autre jour, les cicatrices. Exactement. Est-ce qu'on les laisse apparentes ?
Il fait des kintsugi des rides, surtout.
Exactement,
quelque part. Je ne sais pas s'il de l'or aussi pour réparer ces choses.
Sans doute. Il y en a qui l'utilisent pour les dents. Les dents en or.
C'est vrai. C'était très intéressant cette tendance japonaise. Alors. Merci beaucoup Elsa. Merci à vous également Edouard. On vous retrouve tous les deux très bientôt dans Bienfait pour vous. Mais tout de suite Mélanie, il est l'heure de notre focus santé. C'est ça aussi Bienfait pour vous.
Et oui Julia, à midi on prend soin de notre santé. Et aujourd'hui on va parler de ces bébêtes, les tiques qu'on peut croiser en forêt ou dans nos jardins et surtout de la maladie de Lyme qu'elles peuvent nous transmettre parfois. On va faire le point sur les risques réels et les précautions à prendre avec le professeur et infectiologue Eric Combe.
Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous Romain Desarbres.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Voici donc le programme d'Europe Midi. Il n'y a quasiment pas de journée de Ligue 1 de football sans dérapage de supporters et de violence. Hier soir, les Marseillais ont cassé du matériel à Angers. Un bus de Bordelais a été attaqué à Montpellier. Le récit des faits avec Cédric Chasseur de la rédaction d'Europe 1. Et puis on sera en direct avec le député Sacha Houlier qui a travaillé sur les questions de violence dans le sport. Et si Éric Zemmour participait au processus de sélection du candidat de la droite à la présidentielle. Ses partisans tentent de l'inscrire et de le mettre sur la ligne de départ. On verra ça avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Une conductrice qui a fauché 4 personnes sur les Champs-Élysées mardi soir avait inhalé du gaz hilarant. Il y a 3 blessés graves. Faut-il classer le gaz hilarant dans la catégorie des stupéfiants ? Oui, nous dira la maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne d'Auxerre, qui sera en direct avec nous. Un organisme HLM à Gonesse, dans le Val d'Oise, demande à la justice d'expulser 3 familles qui créent de gros problèmes. La directrice de cet organisme a choisi Europe Midi pour témoigner. Et puis, les tarifs Ouigo vont s'appliquer aux trains intercités en plus des TGV. Les explications d'Aurélien Fleureau qui était à la SNCF ce matin. Voilà le programme d'Europe Midi. À tout à l'heure, dans une demi-heure.
Europe 1. Merci beaucoup Romain. À tout à l'heure.
Europe 1.
11h30.
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et dans la demi-heure qui va suivre, comme tous les jours avec Julia Vignali, on prend le temps, on s'intéresse à votre santé.
Et oui Mélanie, à midi, tous les jours, un invité, un expert nous accompagne en studio. Et aujourd'hui, c'est le professeur Eric Combe, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière. Il va tout nous dire sur la maladie de Lyme, car beaucoup de fausses idées circulent à ce sujet depuis quelques années.
Et puis à 12h20, il y aura notre chronique vite fait, très bien fait avec vous, Cécile Coumeau. Vous êtes notre spécialiste des tendances, des conseils pour les jeunes de plus de 50 ans. Et donc ce midi, on va justement parler de l'âge, je crois.
Oui, en fait, je vais vous parler de différentes formes d'âge. L'âge réel, l'âge ressenti et l'âge biologique. Tout ça pour finalement apprendre à oublier les années qui s'accumulent.
C'est bien ça qui est le problème. Merci beaucoup Cécile, on vous retrouve dans quelques minutes. Moi j'ai hâte franchement de savoir quel âge j'ai vraiment, ça m'intrigue en tout cas ce sujet. Mais pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Allez, c'est parti pour notre dossier santé avec vous, professeur Éric Combe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière à Paris, mais également l'auteur du livre « Maladie de Lyme, réalité ou imposture » chez Bouquin Édition. Alors pour commencer, professeur Combe, expliquez-nous simplement, c'est quoi la maladie de Lyme ? C'est dû à une bactérie, hein, c'est ça ?
Oui, la maladie de Lyme, c'est donc dû à une bactérie. Et cette bactérie, elle est transmise par une tique. Donc c'est pour ça que ça fait couler beaucoup d'encre, si je peux dire. C'est probablement plus lié à la tique qu'à la bactérie.
Alors attention, vous dites une tique, mais c'est pas n'importe quelle tique en réalité. C'est laquelle ? Comment on peut la reconnaître ?
Exact, vous avez raison. Il y a plusieurs centaines de tiques. C'est très important que vous le précisiez. Il y a près de 1000 espèces de tiques différentes en fait, et seule une espèce de tique transmet la maladie de Lyme, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, c'est une autre espèce de tique qu'en Europe, peu importe, mais en Europe, c'est une seule espèce de tique qui s'appelle Ixodes ricinus.
Bon, il n'y a pas écrit son nom quand on la croise, voilà, c'est ça malheureusement. Mais...
Exactement, ouais. Mais par contre, il y a un système qui maintenant permet aux personnes qui sont piquées de savoir la tique qui les a piquées. C'est un système, ça mérite de le signaler aux auditeurs. C'est-à-dire, si jamais ils sont piqués par une tique, et en plus là ils vont être piqués par une tique en allant aux champignons, ils ramassent la tique, ils la prennent en photo, ils l'envoient sur un site dont je ne me rappelle plus l'adresse par cœur, mais qui est dans le livre, vous pourrez rappeler. Voilà. Ils envoient la photo de la tique et on leur répond en leur disant vous avez été piqué par telle espèce de tique et vous risquez telle maladie. Parce qu'en fait,
vous savez
maladies...
quoi, ça m'est arrivé en juin dernier, j'étais dans mon jardin, dans mon potager, deux jours après, non même pas, c'était après une balade en forêt, parce que j'ai jardiné le même week-end, donc je ne sais pas exactement où je l'ai attrapé, mais deux jours après dans la douche, j'ai senti une tique sur mon mollet et effectivement, je l'ai prise en photo, on me l'a envoyé, on m'a répondu que c'était bien la tique qui transmettait Lyme.
Ah,
donc, on vous parlera de la suite après. Je me suis surveillée attentivement pendant un mois et tout s'est bien passé. Il n'y avait pas de Lyme.
Voilà. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est un très bon exemple.
Bon, et le site, c'est citique.fr, C-I-T-I-Q-U-E.
Voilà, c'est ça.
Eh bien, mais pour nous rassurer, vous disiez qu'elle n'est pas si présente que ça, hein, c'est ça, cette tique en France ? Ça représente
quoi, en fait ? Si, elle est quand même très présente,
mais
c'est juste pour signaler qu'il y a plusieurs centaines d'espèces de tiques et que ce n'est pas parce qu'on a été piqué par une tique que c'est forcément celle qui transmet la maladie de Lyme.
Mais on risque de la croiser où ? Au sol, sur les buissons, quand on se promène, mais à quel endroit ?
Alors, plutôt dans des parcs, dans des forêts... dans des jardins, éventuellement, ça peut se passer là. C'est plutôt une tique qui pique en dessous de la ceinture, contrairement à d'autres tiques qui, elles, piquent au-dessus de la ceinture. Et il faut un temps de contact suffisamment long entre la tique et la peau pour que la transmission se fasse.
Ça veut dire
et
quoi,
vous, c'est probablement ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire que probablement,
deux jours à peu près,
comme vous
pense.
L'avez repéré assez rapidement, elle n'a probablement pas eu le temps de transmettre la bactérie.
Deux jours, ça va ?
Non, normalement, il faut... Non,
mais tout va bien, c'était en juin, je vais
non,
très bien.
Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie, hein, ça en c'est plus, très important de le rappeler. Seuls certains pourcentages de tiques sont infectés par la bactérie, et au maximum en France, c'est 10-20% des tiques de cette espèce-là qui sont affectées par la bactérie, et dans d'autres régions, zéro.
Alors justement, rappelez, moi je connais bien la procédure, mais on va la rappeler évidemment pour nos auditeurs qui vont aller cueillir les champignons bientôt. Si on se fait piquer par une tique, il ne faut pas s'affoler non plus.
Non.
On n'a pas forcément la maladie de Lyme, ça on l'a bien compris. Comment il faut réagir ? Comment on se surveille justement ?
D'accord, donc d'abord vous prenez la photo de la tique, vous l'envoyez et comme ça vous avez une
idée. Vous la retirez la tique
Vous la retirez, vous la prenez en photo, vous l'envoyez, comme ça vous avez une idée de la tique, vous avez une idée des maladies qui peuvent se transmettre cette tique. Et après, bon, la principale maladie en France c'est quand même la maladie de Lyme. Donc vous surveillez l'endroit où vous avez été piqué par la tique et c'est à cet endroit-là qu'apparaîtra la fameuse lésion d'inoculation qu'on appelle érythéma nigrans.
On peut la décrire peut-être pour les gens, c'est un peu rouge.
C'est une tache. Rosé, c'est pas très très rouge, hein. Parfois c'est difficile à voir parce qu'elle n'est pas très très rouge.
Et pourquoi on dit migrant ?
Parce que elle va s'étendre progressivement de façon centrifuge autour de la piqûre et puis avec un halo périphérique un peu plus dense que le centre de la piqûre.
Alors si on développe la maladie de Lyme, est-ce que c'est grave et quels sont les symptômes de cette maladie ?
Alors globalement, la maladie de Lyme, vous avez plusieurs stades successifs. Vous avez le premier stade cutané dont j'ai parlé, qui est exclusivement cutané. Et puis après, vous avez une phase où la bactérie dissémine dans l'organisme. Donc là, vous pouvez avoir des signes généraux, parfois de la fatigue, exceptionnellement de la fièvre. Et puis, ça se focalise au niveau de certains organes cibles, qui sont principalement les articulations et le système neurologique.
Donc ça veut dire qu'on ne meurt pas de la maladie de Lyme, on peut dire
ça ? Non, il n'y a pas de mort.
Parce qu'il y a beaucoup de vacarme autour de cette maladie depuis quelques années.
Oui, je sais, il y a beaucoup de vacarme, on dit que c'est un problème de santé publique majeur, etc. Mais enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire d'une maladie qui occasionne moins de 1000 hospitalisations par an, je crois que c'est environ 800 hospitalisations par an, zéro mort répertoriée, ce n'est pas vraiment un problème de santé publique. Le problème de santé publique, c'est le Covid.
Tout ça, il n'y a pas d'autre. Voilà. Mais que je comprenne bien, parce que moi, je n'ai pas rencontré de tic.
Comme moi, vous n'avez pas eu cette chance.
Non, c'est quoi ce qu'on risque de plus grave, alors ? Si c'est pas la mort.
Alors, ce qu'on risque de plus grave, c'est des localisations neurologiques, hein, puisque vous avez des méningites avec des possibles atteintes d'hypercrâniennes, des encéphalites. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça se soigne bien. Et ça, c'est fondamental à rappeler.
Alors, vous dites dans votre livre que beaucoup de patients consultent aujourd'hui se pensant atteints de Lyme, mais en fait, la grande majorité ont autre chose. Vous l'avez vraiment constaté, vous, en consultation, ça ?
Ben oui, on l'a même publié dans une belle revue scientifique. On a redécouvert des choses qui avaient déjà été publiées par les Américains il y a 20 ans. Donc, si vous voulez, ça n'avait finalement rien de très original, sauf que ça avait été oublié. Donc, on a publié ça sur plus de 300 malades et il y avait près de 90% qui n'avaient pas la maladie de Lyme et seulement 10% qui avaient la maladie de Lyme.
Alors, justement, si ce n'est pas la maladie de Lyme, qu'est-ce qu'ils ont ?
Alors, comme la maladie de Lyme a un tropisme à la fois neurologique et articulaire, ils ont principalement des maladies neurologiques et des maladies articulaires. Voilà.
Des polyarthrites rhumatoïdes,
maladies rhumatologiques comme des polyarthrites, comme de l'arthrose, des maladies neurologiques malheureusement pas toujours très sympathiques, comme la maladie de Parkinson.
On ne dit pas qu'ils n'ont rien, mais ce n'est pas Lyme en tout cas.
Ils n'ont pas rien, ils sont malades. Hein. Mmh. Et même ceux chez lesquels on ne trouve ni maladie neurologique, ni maladie rhumatologique, qui n'ont que des symptômes sans aucun signe physique, ils sont quand même malades. Tout le monde est malade. Hein.
Vous dites aussi qu'il y a trop de médecins qui n'y connaissent pas grand-chose peut-être sur cette maladie et traitent finalement à l'aveugle les patients contre Lyme. Pourquoi font-ils ça, ces médecins-là ?
Je ne sais pas très bien. Je pense qu'ils n'ont pas assez de temps à consacrer aux malades, malheureusement. Il y a un vrai problème
avec l'interrogatoire, ces choses-là.
Ouais. Il y a un vrai problème aujourd'hui avec la formation des médecins, c'est vrai, ça c'est nous qui en avons la responsabilité. Mais il y a un vrai problème aussi, qui est un problème sociétal. Il n'y a plus assez de médecins. Ces médecins n'ont pas suffisamment de temps à consacrer à un malade. Or, faire de la médecine correctement, ça demande de bien interroger un malade. Et ça prend du temps. Et malheureusement, ils n'ont plus le temps.
Oui. Alors, on va revenir à la maladie de Lyme, hein, dont on ne nie évidemment pas l'existence. Comment ça se soigne, alors, quand c'est vraiment cette maladie, et est-ce que c'est efficace ?
Oui, alors ça se soigne très bien. Franchement, il faut rassurer les auditeurs. Il y a deux ou trois traitements efficaces. En tout cas, deux traitements par voie orale, un traitement par voie injectable qui sont efficaces. Il y en a trois antibiotiques très efficaces. Les taux de guérison sont de plus de 95%.
Ah oui, d'accord. On a évoqué un petit peu les dérives et le surdiagnostic éventuel de cette maladie, mais qui va très loin et ça ne s'arrête pas aux antibiotiques qui seraient pris à tort. Vous avez même vu des patients avec des ordonnances pour des patients ayant peut-être Lyme, avec de très lourds traitements. Quel genre de traitement ?
Écoutez, vous ouvrez la page du livre, je ne sais plus à quelle page c'est, la page 120 ou quelque chose comme ça. J'ai pris en photo des ordonnances parce que ça paraît tellement incroyable qu'on puisse prescrire à un malade.
Des opiacés, des anti-inflammatoires, la liste est longue.
Le record dans le livre, je crois que c'est 23 médicaments. J'ai une autre ordonnance à 21 médicaments et c'est des cocktails où vous avez des antibiotiques, des antidouleurs comme des morphiniques, hein, des opiacés, vous avez raison de le souligner. Signaler. Donc, quand ces médecins-là disent qu'ils guérissent les malades, est-ce qu'ils les guérissent avec les anti-inflammatoires, l'antibiotique, l'opiacé, parfois il y a des anxiolytiques.
Avec des effets secondaires éventuellement.
Bah oui, 23 médicaments en général.
C'est trop. Merci professeur, vous ne bougez pas. On a des questions pour vous de nos auditeurs sur Lyme et sur l'éthique. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, c'est le moment. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur notre compte Instagram par exemple ou sur notre répondeur au 3921.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio dans cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé avec le professeur Éric Combes, auteur du livre « Maladie de Lyme, réalité ou imposture » chez Bouquin Éditions. Alors maintenant, on va prendre quelques questions de nos auditeurs pour vous. On a par exemple Coralie qui vit à Toulon sur la page Facebook d'Europe 1 et qui demande « Quelles sont les zones géographiques en France où la maladie de Lyme est la plus présente ? Est-ce que je risque quelque chose à Toulon en randonnée ?» C'est très précis.
Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on ne l'a pas abordé jusqu'à maintenant. La répartition géographique de la maladie de Lyme est très, très hétérogène sur le territoire français. Les grandes régions d'endémie, c'est l'Alsace-Lorraine et le Limousin, Massif central. Ailleurs, la maladie est présente, mais beaucoup moins répandue. Et sur le pourtour méditerranéen, elle est très, très, très peu présente. Voilà.
D'accord.
Donc, votre
Toulon,
Coralie à Toulon, elle ne risque pas grand-chose sur le plan du Lyme.
En
par
revanche...
Par contre, il faut qu'elle sache qu'il y a une autre tique que celle qui transmet le Lyme, qui transmet une autre maladie qui est une rickettsiose, et qui, elle, par contre, qui s'appelle la fièvre boutonneuse méditerranéenne, et qui peut être mortelle, elle, par contre.
Oula. Bon, c'est pas
si
très bien-être, tout ça,
voilà.
Coralie.
Alors,
continuez quand même à aller chercher les champignons.
Elle est rare,
hein,
mais donc ouais. elle se soigne très bien, là aussi, donc il faut rassurer. Mais bon, il faut faire attention.
Bon, on a aussi Sofiane sur le compte Instagram de l'émission qui dit « Si je m'aperçois rapidement que je suis mordue par une tique et que je la retire tout de suite, est-ce que j'ai moins de risque d'attraper la maladie de Lyme ?»
Oui. Elle a même zéro risque d'attraper la maladie de Lyme. Il faut un contact d'au moins 2 heures, voire même probablement plus longtemps, pour que la bactérie se transmette.
Ah, excusez-moi, une question de néophyte, hein, totalement. On s'en rend compte quand on se fait piquer par une tique ?
Alors, ce n'est pas toujours évident, parce qu'en général, on se fait piquer par des larves ou par des nymphes, pas toujours la tique adulte, et donc, on ne la voit pas. Donc, une très bonne manière, c'est quand on prend sa douche, après être allé au potager ou après être allé en forêt, on se passe la main sur le corps, comme ça, et on a une petite sensation de granulé ou de relief, et on se dit, tiens, ça, ce n'est pas habituel, c'est quand même pas un grain de beauté qui a poussé en quelques heures.
Boutons en fait,
voilà,
mais
voilà.
Ouais,
c'est bien votre expérience.
Oui, mais en plus, juin dernier, je vous le dis.
Bah,
et d'ailleurs, si je crois qu'elle est encore dans mon portefeuille, la tique.
Donc ça veut dire que quand on part en randonnée, aux champignons, tout ça, on se lave après.
Oui, c'est plus raisonnable.
Et on regarde bien derrière les oreilles, les petits plis,
oui,
on regarde nos enfants aussi.
Ouais,
bien
c'est
sûr.
Surtout les plis, et c'est les plis en dessous de la ceinture principalement. Chez les enfants, ça peut être effectivement au-dessus de la ceinture, mais en général, c'est d'autres tiques que la tique qui transmet de Lyme, qui pique au-dessus de la ceinture.
Alors, il y a des questions pratiques aujourd'hui, comme celle de Rémi au 39-21 sur notre répondeur. Il demande, comment retirer une tique ? Est-ce qu'une pince à épiler fait l'affaire ? Et est-ce qu'il faut la garder pour la montrer au médecin ? Vous y avez déjà répondu.
Oui, on a déjà répondu. 6 tiques, hein, c'est ça.
6 tiques avec un C, voilà. Vous l'envoyez en photo et vous saurez quelle est la tique.
Voilà, exactement. Et sinon, le mieux, c'est de l'enlever avec un appareil qu'on appelle un tire-tique. C'est là où c'est le plus... sécurité, si je peux dire.
D'accord.
La pince à épiler, il faut vraiment être très habile.
Bon, le site, c'est donc citique.fr. Alors, on a aussi Marjorie, au 39-21, qui demande s'il existe une prise de sang ou un test pour savoir à coup sûr si on est atteint par la maladie de Lyme.
Alors oui, il y a une prise de sang. Après, à coup sûr n'est pas vrai.
Ouais.
Il faut savoir que cette prise de sang dépiste les anticorps et les anticorps n'apparaissent pas tout de suite. Ils apparaissent au bout d'environ, on va dire, 1 mois ou 6 semaines, pour être large. Et donc, il faut savoir qu'il y a une période pendant laquelle vos anticorps ne sont pas apparents. Mais on le sait tous. C'est le début de la maladie, uniquement.
Alors, toujours sur notre compte Instagram, professeur Céline K, elle dit « J'avais lu qu'il y avait des études pour un possible vaccin contre la maladie de Lyme. Où en est-on ?»
Oui, elle a raison. Il y a une étude, il y a un laboratoire qui a un vaccin contre la maladie de Lyme. Et d'ailleurs, les essais ont déjà débuté. Et donc, ce vaccin sera commercialisé, je pense, bientôt.
Donc, c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
En cours de...
C'est une bonne nouvelle. Après, on verra si des personnes adhèrent au vaccin.
Ouais, ça, c'est
pourquoi vous dites ça ?
Un autre sujet.
À votre avis.
C'est étonnant. Bon, très bien. Merci beaucoup, professeur Combes, d'avoir été à nos côtés ce midi pour cet éclairage et même cette mise au point plus que nécessaire sur la maladie de Lyme. Merci.
Avec plaisir.
Oui, merci, professeur. À présent, Mélanie, passons à notre petit bonus tous les jours à la fin de cette émission. La chronique Vite fait, très bien fait, portée par Cécile Coumeau aujourd'hui. Alors, je rappelle, Cécile, que vous êtes à l'affût de toutes les recettes qui peuvent favoriser le bien-être des 50 ans et plus. Et cette semaine, vous êtes allée au cœur même du sujet, l'âge. Comment réconcilier le nombre d'années qui figurent sur votre passeport et celui qui est dans votre tête ?
Oui, parce que Mélanie, Julia, vous avez sans doute remarqué, il y a parfois un léger écart entre ce qu'on appelle l'âge réel et l'âge ressenti. Bon alors tout d'abord, je vous rassure, cette distorsion de la réalité n'a rien de pathologique et elle touche finalement une grande majorité d'entre nous et pas seulement les plus âgés. Pour preuve, on écoute Zoé.
J'ai 15 ans. Je me sens plus avoir 17, mais pas 18 parce que je me sens pas aller acheter de l'alcool comme ça, parce que c'est une phase entre majeur et mineur, quoi.
Bon, Cécile, Zoé, c'est 2 ans d'écart, c'est pas énorme, mais je suppose que ça va pas aller à s'arrangeant. Hein.
Oui, surtout, le phénomène, il s'inverse. Des études menées sur des centaines de milliers de personnes ont montré que tout basculait à partir de l'âge de 30 ans.
Ça y est, on est foutu.
Là, vous commencez à avoir un petit peu moins de bougies sur votre gâteau d'anniversaire qu'il n'y en a réellement. Bref, à vous sentir plus jeune dans votre tête. Puis, un autre palier se produit, lui, autour de la cinquantaine. Écoutez Philippe.
Moi, j'ai 58 ans. Dans la tête, j'ai pas 50 ans. Enfin, voilà, j'ai tout juste 50 ans. Mais pour moi, c'est pas très loin de 60. Et 60, pour les gens de ma génération, c'était la retraite, quoi. Voilà. Et je suis pas tout à fait dans ce feeling-là aujourd'hui.
Et je vous annonce qu'un quart de siècle plus tard, les symptômes s'aggravent. Le fossé se creuse encore plus.
J'ai 83 ans. Ben, j'ai l'âge, disons, de la maturité, c'est-à-dire de 50-60 ans, c'est-à-dire d'un homme qui peut travailler, vivre et avoir tous les mêmes goûts, les mêmes plaisirs, les mêmes aspirations qu'un homme de cet âge-là.
Ah non, ouais. Mais c'est dingue, 30 ans d'écart, mais c'est plus un fossé, Cécile.
Vous avez
c'est
quel âge, professeur Combes, si c'est pas trop indiscret dans votre tête, en tout cas?
La soixantaine.
On ne vous demandera pas votre âge réel.
Alors oui, c'est un gouffre, effectivement. Alors Claude, que j'ai interrogé, est effectivement quand même un peu au-dessus de la moyenne, on va dire. Hein, puisque globalement, les recherches en psychologie nous disent que les octogénaires se voient plutôt comme des sexagénaires. Ça fait quand même 20 ans. Hein. Et après, globalement, le fossé ne se creuse plus, voire il se réduit.
Bon, finalement, qu'est-ce qui explique un tel décalage? Est-ce que c'est grave, Cécile, docteur Kumo, de perdre pied avec la réalité?
Ben, sans surprise, hein, c'est la peur de vieillir, évidemment, qui est à l'origine de ce phénomène. Parce que, faut le dire quand même, dans nos sociétés, la vieillesse, bien, c'est associé à la maladie et au fait d'être un poids un peu pour ses proches, pour la société. Donc, finalement, notre cerveau refuse cette perspective. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne se passe pas que dans la tête, comme nous l'explique le psychiatre Jérôme Palazzolo.
Petit à petit, c'est un petit peu l'esprit qui va nous permettre de diriger notre comportement, en quelque sorte. Concrètement, si on ne veut pas vieillir, on va essayer de manger mieux, on va essayer de prendre soin de soi, on va essayer de faire du sport. Voilà, donc c'est nos valeurs qui vont impacter un peu notre vie et notre vie qui va tendre à se rapprocher de nos valeurs.
Donc si je comprends bien, c'est un cercle vertueux tout ça, Cécile.
Oui, d'autant que plus on se sent jeune, moins on est stressé. Mm-hmm. Or, on sait que le stress est un facteur de vieillissement.
Ben voilà.
En fait, si vous vous sentez plus jeune que vous ne l'êtes réellement, vous allez agir sur un autre âge. Lui, c'est l'âge biologique. Il y a eu des tests génétiques qui ont été mis au point pour essayer d'évaluer avec précision l'âge de nos artères, comme on dit. Bon, pour le moment, ce n'est pas tout à fait au point. On en est encore au stade de la recherche. Mais bon, ça progresse.
Bon, ceci dit, Cécile, à se croire bien plus jeune que l'on est, est-ce qu'on ne risque pas de se mettre en danger aussi?
Effectivement, hein, si vous entreprenez, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais un marathon à 80 ans, vous vous exposez à des accidents physiques, mais aussi en fait à des problèmes psychologiques. Parce que se fixer des objectifs inatteignables pour votre corps, en gros, c'est la recette idéale pour vous miner le moral. Bref, entre cet âge réel et cet âge ressenti, tout est question d'équilibre, comme nous l'explique donc le docteur Palazzolo.
L'objectif, c'est pas de vivre comme quelqu'un d'âgé, loin de là, mais l'objectif, c'est d'essayer d'être raccord avec son âge, c'est-à-dire respecter sa physiologie, respecter ses envies. Quelque part, c'est aussi une recette du bonheur.
Alors cette recette du bonheur, je vous annonce que de plus en plus de quinquas semblent l'avoir trouvée. C'est chanceux, on leur a même donné un nom, on les appelle les quinquados.
Mais c'est quoi les quinquados? Ne dites pas que c'est des quinquas qui se déguisent en ados ou un truc affreux comme ça.
Il y en a des comme ça, hein. Ouais. Non mais c'est pas ça du tout. Même si c'est vrai que quinquado, c'est la contraction de quinquagénaire et d'adolescent, ces quinquas, eux, ils ne renient pas du tout leur âge. Le sociologue Serge Guérin leur a consacré un livre entier. Il explique bien que ce ne sont pas de faux jeunes. En fait, ils refusent les clichés qui sont liés à la notion de vieillissement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et ils continuent à voyager, à sortir avec des amis, bref, à goûter de tous les plaisirs de la vie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, à 50 ans, on est jeune, non?
Mais ben oui. Donc un cadeau, c'est vous, non?
Et en plus, Serge Guérin dont vous parlez, qui sera notre invité demain dans Bienfait pour vous, puisqu'on va parler de comment renforcer les liens entre générations, du regard qu'on doit porter sur la vieillesse. Ça vous intéressait, professeur Combes? Est-ce que ça correspond, vous, dans votre tête, entre l'âge réel et l'âge que vous avez réellement?
Ça m'intéresse beaucoup. J'ose pas dire que je suis un sexado, parce que...
C'est vrai que ça a peut-être une autre connotation voilà, du coup. Là.
Et vous, Julia, vous avez quel âge dans votre tête et dans votre vie, on sait à peu près que vous avez la quarantaine.
Moi, j'ai 46 ans, mais en ressenti, j'aurai toujours 32 ans.
Voilà, c'est ça. C'est à 30 ans que tout baisse, Julia, on l'a compris.
Exactement.
Merci beaucoup, Cécile Coumeau, pour ces précisions. En tout cas, moi, c'est certain, quand cette émission touche à sa fin, je me sens rajeunie de 10 ans au moins. Bon, justement, bien fait pour vous. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. On sera évidemment de retour demain à 11h. Et Julia, demain donc, quel est le programme? Même si je l'ai un petit peu donné.
Vous l'avez
déjà
un peu donné. Demain, Mélanie, que vous soyez jeune ou plus âgée, on va aborder un sujet qui nous concerne tous. Et pour cela, on va se poser cette question. Comment renforcer le lien entre les générations? On va mettre en lumière de très belles initiatives qui vont en ce sens. Alors, soyez au rendez-vous.
Et puis Julia, il y aura encore de nouveaux sujets tendance, de la santé, du bien-être. Donc d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos questions sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.